Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour une nouvelle semaine de Lectures en liberté. Et nous allons continuer cette semaine la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Anna était assise. Elle discutait avec quelques copines, riait parfois, après avoir levé les yeux sur le cheptel masculin, isolant tel ou tel dans l'enclos d'un regard, puis le relâchant en piaillant avant de s'intéresser à une autre proie virtuelle aux allures de Providence. Gus repassait mentalement un plan réfléchi à l'avance. Il avait dans l'idée de s'approcher discrètement d'Anna et de l'inviter à danser. Pour le reste, il se débrouillerait, persuadé que le plus important était le premier pas et que tout le reste suivrait. Il s'était maintes fois entraîné à tourner sur le sol de la grange en s'accompagnant du manche d'une fourche. Il était prêt. Ce fut à cet instant qu'un jeune gars viola le champ de vision de Gus et que tout ce qui habitait son avenir disparut. La cause et le désespoir sous les traits de Jean Paradis, déjà penché sur le visage d'Anna à la manière d'un loup reniflant un agneau. Gus s'était alors approché du couple, pensant que, peut-être, Paradis n'allait pas s'attarder et qu'il irait faire du gringue à une autre fille. Ce dernier était éméché par l'effort, sûr de lui, large d'épaule, rassurant. Gus supposait qu'il disait des mots qu'une fille avait envie d'entendre, et d'une façon qui ne souffrait aucune contradiction. Puis Paradis avait tendu une main en direction d'Anna, qu'il avait prise en souriant. Il sembla à Gus qu'elle posait ses yeux sur lui sans le regarder vraiment, un regard vide de lui quand le sien était rempli d'elle. Il était comme une adventice dans un champ d'orge, une boursouflure anachronique sur l'horizon du temps. Car c'était bien ce regard vide qui avait contribué à exécuter le cœur de Gus. La jeune fille aurait pu regarder n'importe qui d'autre dans l'assistance, que ça aurait fait l'affaire pareille, juste une question de hasard. Gus avait eu la conviction profonde qu'il haïrait désormais tout ce qui entourait le regard de cette fille qu'il aurait voulu aimer à la folie, parce que la haine était au final le sentiment le plus digne de la hauteur à laquelle il avait placé son espoir. Gus avait eu un mal de chien à regagner la sortie. Une fois à l'extérieur du chapiteau, pendant que les corps se cognaient toujours dans un vacarme d'enfer, il rangea la haine et le désespoir au rang des conceptions naturelles de l'espèce humaine. Gus n'était jamais parvenu à oublier cette défaite, aussi parce qu'il n'avait pas vraiment combattu. Et les mots d'Abel qu'il prononça en cet instant n'arrangèrent rien. T'as réfléchi à ce qu'allait devenir ta ferme quand tu seras plus là? Mort, tu veux dire? Dit Gus, en avançant la mâchoire inférieure, comme pour rattraper le mot et l'idée même de ce mot à l'intérieur de sa bouche. Ouais, t'as raison, il faut appeler un chat un chat. Tu es la deuxième personne à te soucier de l'avenir après moi, et je trouve que ça fait déjà deux de trop. C'était qui, le premier ? Demanda Abel, surpris. Un banquier, qui voulait me prendre mon argent pour le mettre à l'abri à ce qu'il m'a raconté. Il te connaît pas. Toi, c'est pas le cas. C'est important, je t'assure. Et qu'est-ce que j'en aurai à faire de ce qui se passera quand je serai plus là pour le voir ? Si t'avais un héritier, tout pourrait continuer et ton nom se perdrait pas. C'est un peu comme ça qu'on finit par survivre, c'est encore une chose possible, tu sais. La meilleure chose qui pourrait arriver, c'est justement que le nom des Targaux se perde. Vu ce qu'il y aura à en retenir, bah tu dis des conneries que tu penses pas. Si tu me connaissais aussi bien que tu le prétends, tu devrais savoir que je suis pas du genre à parler pour rien dire. Sûr. Tu sais quand même qu'il existe des gens capables de te faire rencontrer quelqu'un, susceptible de te convenir à toi et à la vie de paysan. Évidemment, quelqu'une de plus jeune, vu que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne le mieux. Tu veux parler des petites annonces du chasseur français ? Non, c'est dépassé. Il paraît qu'il y a beaucoup mieux maintenant, des sortes d'agences qui t'assurent de trouver la chaussure droite qui va avec la gauche. Ben comment que t'es au courant de ça, toi ? Disons que je m'intéresse parfois à des sujets qui vont au-delà de mes compétences de paysan. Putain, belle, tu vas finir par me mettre vraiment en rogne avec tes sous-entendus à me dire comment je devrais mener ma vie. Mais je vais pas te dire ce que tu devrais faire, ou pas. Alors viens pas m'emmerder avec tes idées de marieuse. Ben, c'était pas mon intention. Je voulais juste être certain que t'aies pas de regrets à mourir à un moment. Si un jour j'ai des regrets, ils seront pas de cet ordre, tu peux en être certain. Réfléchis quand même à tout ce que je viens de te dire. Il me semble que t'es plutôt mal placé pour me faire la leçon. À ce que je sache, ta ferme à toi, elle va aussi disparaître quand tu seras mort. Gus laissa sortir le dernier mot sans retenue et appuya lourdement dessus, pensant qu'il annulerait tout le reste de la conversation. Mais une fois encore, les choses ne se passèrent pas comme il l'imaginait. Abel sembla encaisser le coup durant un court silence, puis but une longue gorgée de vin, comme pour se donner le temps et le courage de rassembler ce qu'il avait maintenant à dire à Gus. « Je t'ai pas fait venir uniquement pour te parler de toi. » Mais aussi parce qu'il y a une histoire qui me pèse trop et depuis trop longtemps. Et j'ai bien conscience que c'est pas un cadeau que je vais te faire. À ce moment-là, Gus comprit qu'il n'était pas prêt de goûter à l'omelette et qu'il n'avait d'autre choix que d'écouter ce qu'Abel avait à dire. Une chose qui paraissait si grave que rien d'autre ne semblait exister en cet instant. Tu dois savoir que j'ai été marié.
Ben, comme presque tout le monde dans le coin, je suppose.
Me coupe pas, s'il te plaît. Tu vois, Gus, je peux vraiment dire que j'ai connu le bonheur sur cette terre. Ça, au moins, c'est une chose sûre que personne ne pourra m'enlever. Elle s'appelait Mathilde. Une gentille fille qui habitait à la ferme des Ors. J'étais beau garçon à l'époque. La Mathilde aussi était sacrément jolie, tu peux me croire. Ben on s'est plu tout de suite. Nos parents n'ont rien trouvé à redire quand on a décidé de se marier. J'étais quelqu'un de sérieux avec une ferme qui me reviendrait un jour ou l'autre, vu que j'étais fils unique. On s'est vite mariés et, 3 mois plus tard, Mathilde était enceinte. On s'était installé ici avec mes parents, vu que la place manquait. Tout se passait plutôt bien entre nous. Ma mère adorait les enfants. Alors l'idée de voir de nouveau un petit gazouiller à la ferme, ça la remplissait de joie, même si des fois, elle était un peu envahissante avec ses conseils. Mathilde avait beau s'arrondir, elle restait toujours aussi jolie et même plus à mes yeux. La nuit de Noël, après 9 mois de grossesse, elle m'a réveillé en me disant qu'elle perdait les os, que le petit était en train d'arriver, qu'il fallait que j'aille chercher le docteur sans perdre de temps. On n'avait pas encore le téléphone en ce temps-là. Tu me suis vite habillé et je suis parti au village avec le Citroën. Je t'assure que j'ai jamais conduit aussi vite de toute ma vie. Arrivé devant chez le toubib, j'ai fait un barouf de tous les diables. Le docteur avait l'habitude des urgences et quelques minutes plus tard, il me suivait dans son aronde avec tout le nécessaire dans sa sacoche en cuir posée sur le siège passager. Quand on est arrivé à la ferme, le père était en train de boire du café. Il a fait un signe de tête au toubib, qui devait vouloir dire bonjour ou bonne chance, quelque chose dans ce goût-là. On entendait des hurlements qui venaient de la chambre, ceux de ma Mathilde en train de travailler à mettre au monde notre petit. J'ai voulu me précipiter à l'intérieur, mais mon père m'a retenu par le bras en disant que c'était pas ma place. Et le docteur avait l'air d'accord là-dessus. Ma mère était avec Mathilde pour l'aider s'il y avait eu besoin, vu qu'elle savait comment ça se passait que d'avoir des enfants et qu'aucune femme sur terre ne pouvait oublier les bons gestes à faire dans ce genre de situation. Elle venait parfois à la cuisine pour faire chauffer de l'eau sans rien dire, et moi, j'osais pas lui poser des questions, de peur de lui faire perdre son temps. Le calme a fini par revenir. Une couche de silence aussi épaisse qu'une éternité. Et puis je l'ai entendu enfin, ce foutu cri de bébé, comme un bêlement, juste de l'autre côté de la porte. J'ai regardé mon père et je lui ai souri, comme si je venais de surprendre le Père Noël coincé dans la cheminée. Un peu après, le docteur est sorti de la chambre. En prenant soin de refermer la porte derrière lui, il est resté planté sur place, à s'essuyer les mains sur une serviette avec les initiales de Mathilde brodées sur le tissu souillé. Ses mains étaient propres, mais il continuait quand même à les frotter. Ça, en plus de la porte qu'il avait refermée, c'est ce qui m'a fait penser que quelque chose clochait. Je lui ai demandé si je pouvais entrer voir la mère et l'enfant. Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il s'est approché et a posé une main sur mon épaule, puis il a dit qu'il était désolé. Désolé de quoi ? Je lui ai demandé, désolé de quoi ? J'avais entendu l'enfant pleurer, donc tout devait bien aller. Il a alors enfilé son habit de docteur, sûrement pour prendre un peu de distance avec ce qui venait de se passer, en prenant soin d'utiliser des mots à lui, qui au bout du compte signifiaient que Mathilde n'avait pas survécu à l'accouchement. Que le bébé s'était présenté par le siège, et qu'en plus il avait le cordon autour du cou au moment de sortir et qu'il avait dû le ranimer. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town.
symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après l'habituelle pause musicale, nous revenons au roman de Frank Buis, Grossir le ciel. La main du toubib sur mon épaule est devenue aussi lourde qu'un tronc d'arbre. Mais j'ai pas flanché, comme un boxeur sonné qui attend que le gong retentisse pour aller s'asseoir dans son coin et que tout recommence comme avant, avant de prendre les coups. Sauf que c'était pas un putain de combat de boxe et que j'ai vite compris que rien ne pourrait jamais plus être comme avant, parce que c'était pas moi qui l'avais pris ce coup. Mathilde était morte et le petit avait manqué d'oxygène suffisamment longtemps pour que son cerveau ne fonctionne jamais normalement dans le futur. Je venais de tout perdre en quelques minutes et je te jure que j'aurais voulu que la mort me tombe dessus pour pas avoir à vivre ce qui allait suivre. Mais la vérité, c'est que la volonté d'un homme pèse pas lourd devant son destin en marche. Il y eut un long silence après le mot « destin » qu'Abel avait laissé traîner dans sa bouche comme s'il parlait de son pire ennemi. Pendant tout le temps qu'Abel racontait son histoire, il s'était tenu debout, dos à Gus, en tenant toujours un œuf dans chaque main. Mais cela, il ne les avait pas cognés et il n'était pas prêt de le faire, comme si les coquilles pleines du jaune et du blanc à l'intérieur le maintenaient en équilibre. Gus restait silencieux. Rien. Sentant qu'Abel n'en avait pas terminé, car au moment où il s'était arrêté de parler, il y avait ce fils, toujours mal en point dans la chambre, mais vivant, lui. Gus siffla son verre sans s'en rendre compte, puis s'en servit un autre. Ensuite, Abel se retourna, s'approcha de la table juste en face de Gus et posa les œufs qui roulèrent un moment avant de s'immobiliser l'un contre l'autre entre deux lames de bois. Vu de dessus, Gus trouva que les coquilles ressemblaient au début d'un chapelet. C'était sans doute idiot de faire une telle comparaison, mais il ne voulait surtout pas croiser le regard d'Abel. Il voulait qu'il parle avant d'être de nouveau capable de le regarder. Gus comprenait qu'Abel tentait désespérément de se débarrasser de sa douleur. Mais il n'avait rien à voir avec ce drame. Il était simplement là à écouter un récit tragique, et c'était déjà pas mal. Quand Abel reprit, Gus arrêta instantanément de fixer les œufs. On te dira qu'il faut prendre la vie comme elle vient. Connerie. La vie, c'est elle qui te prend sans te laisser le choix. Et par les couilles encore. Le temps qui passe fait que la mémoire s'use un peu, mais le problème, c'est qu'elle s'use pas sur les mauvaises choses qu'on a vécues. Elle s'attarde plutôt sur les bonnes, plus tendres. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu sais, il n'y a pas une journée qui défile sans que je repense à cette nuit, au goût du café que j'ai bu ce soir-là, à l'odeur de l'alcool qui venait de la chambre et à celle du sang. C'était un peu moi qui avais tué Mathilde avec cet enfant que je lui avais fait. On avait décidé de l'appeler Thomas. Abel s'interrompit pour avaler sa salive et reprit. C'est la mère de Mathilde qui a voulu s'occuper du petit, moi j'y voyais pas d'inconvénient. De pas l'avoir sous le nez, j'imaginais que ça me ferait moins penser à Mathilde, donc moins souffrir. Si c'est le cas, j'ai bien fait, vu que j'aurais sûrement tué cet enfant depuis longtemps, et moi avec. Je sais pas comment il a grandi, j'allais jamais le voir, et à ma connaissance, les parents de Mathilde le sortaient pas souvent de la ferme. Trop de honte, je suppose. C'était bel et bien un morceau de leur fille qu'ils élevaient, mais un morceau qui n'était pas normal. Quand il a été suffisamment grand, je sais qu'ils l'ont placé dans un institut spécialisé pour le genre de handicap qu'il avait, parce que j'ai dû signer des papiers, vu que j'étais le père. Après ça, j'en ai plus entendu parler. Tu dois penser que je suis un lâche de l'avoir abandonné. Eh ben, t'as raison. C'est exactement ce que je suis, un lâche. Gus ne pensait qu'à foutre le camp dès que possible, mais le récit d'Abel l'avait bien cloué sur place. Ce dernier prit le temps d'avaler de l'air avant de continuer. L'histoire aurait pu se terminer de cette façon. Il y avait suffisamment de mal de fait. Le problème, c'est que ce qu'on fait dans la vie, ça revient en pleine gueule à un moment ou à un autre, surtout quand on s'y attend le moins. Et il y a environ un mois, j'ai reçu un courrier qui me disait que Thomas était devenu trop violent, qu'il ne pouvait plus le garder à l'institut, qu'il fallait trouver une autre solution, et la première qui leur est venue, c'est que je le prenne avec moi. Les parents de Mathilde sont morts depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir assumer ce que j'ai pas pu assumer à l'époque. Abel parlait toujours comme s'il n'y avait personne en face de lui. Les mots qui sortaient de sa bouche en diarrhée, il ne les avait jamais dit à personne. Gus le supposait soulagé d'une certaine façon, car son visage était détendu au fur et à mesure qu'il parlait. Pour autant, Gus n'était pas tranquille, pensant qu'Abel lui réservait peut-être une autre surprise. Il se leva pour tenter de couper court et il dit « Bon, on devrait peut-être se la faire, cette omelette, maintenant. » Abel ne répondit pas. Il se dirigea vers la porte de sa chambre et l'ouvrit. Puis il s'écarta pour que Gus puisse bien voir ce qui se tenait dans l'encadrement et qui semblait ne pas avoir bougé depuis la nuit où sa femme était morte en couche. Le fils d'Abel, debout, immobile. « C'est bon, Thomas, tu peux t'approcher maintenant, » dit Abel, sur le même ton qu'il aurait utilisé pour parler à un animal. Thomas obéit à son père et s'avança dans la cuisine. Gus était incapable de lui donner un âge. Sa face était toute vrillée en commençant par sa bouche et ses yeux qui n'étaient pas au même niveau et son nez décalé du milieu du visage, un nez minuscule comme Gus n'en avait jamais vu. Sûr qu'une vie à elle seule ne pouvait pas arriver à fabriquer une horreur pareille. Les événements ne s'étaient pas déroulés comme ils auraient dû, la nuit de l'accouchement de Mathilde, et ils avaient engendré cette créature que Gus prenait pour un monstre. Thomas tenta de propulser un son hors de sa bouche, mais rien ne parvint à sortir, sinon un filet de bave qui se mit à couler au coin de ses lèvres, pareil à du latex s'écoulant d'un tronc d'EVA blessé. Gus décrocha ses yeux du visage torturé pour se faire une idée d'ensemble, et ce ne fut pas une mince affaire. Le fils d'Abel portait un vieux pull déchiré à un coude, un bleu de pantalon trop petit rapiécé au genou, et bon Dieu, il ne portait ni chaussures ni chaussettes à ses pieds, étonnamment petit. « Je te présente Thomas, le fils de Mathilde et moi, » dit Abel. Il lui était visiblement impossible de dire « mon fils ».« Ah !» fit Gus, incrédule, comme s'il se trouvait en présence de l'abbé revenu d'entre les morts. « Je crois que vous avez failli vous rencontrer il n'y a pas si longtemps dans les bois. »« Pourquoi tu m'as rien dit à ce moment-là » demanda Gus avec de la colère dans la voix. « Je pouvais pas, je t'assure. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. » Et qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant ? On peut essayer de s'entendre là-dessus. Arrête tes conneries, on s'entendra sur rien du tout. Je veux pas qu'on sache que j'ai abandonné cet enfant, tu m'entends ? Même s'il n'est pas normal, je suis trop vieux pour le déshonneur et la honte. Mais je le sais bien, moi. Toi, t'es pas pareil. T'es pas homme à me juger, pas vrai ? Et ça nous mène où ? Je voudrais que tu m'aides à m'en occuper.
Que je t'aide à t'occuper de lui ? Dit Gus, comme pour se convaincre qu'il avait bien entendu.
C'est ce que j'ai dit.
Mais tu dérailles complètement, mon pauvre Abel.
Au contraire, j'ai jamais été aussi sain d'esprit qu'en ce moment, tu peux me croire.
Nous y voilà, t'avais bien prévu ton coup, mon salaud. T'as juste oublié une chose, c'est que j'ai rien à voir avec vous et que j'ai sans doute pas cette envie-là.
On ferait comme une sorte de famille, reprit Abel, sans prêter attention à ce que disait Gus.
Mais t'as vu que t'es en train de devenir cinglé. Il faudrait que tu te reprennes sans trop tarder si tu veux pas virer comme ce... comme ton fils.
Il est capable de faire n'importe quelle bêtise sans se soucier des conséquences. Il a le cerveau d'un enfant de 5 ans, qu'ils m'ont dit en me l'amenant. Le corps a poussé à peu près normalement, mais pour ce qui est de la tête, c'est pas la même histoire.
Je t'aime bien, Abel. Mais j'ai aucune envie de t'aider dans cette affaire. Elle te concerne, toi et personne d'autre.
Je peux quand même pas l'attacher. T'es bien d'accord là-dessus ?
Ben, c'est pas à moi d'en décider. J'ai besoin de toi, Gus.
Je t'en supplie, dit Abel en élevant la voix et en posant ses deux mains bien à plat sur la table.
C'est pas mes oignons et ça le sera jamais, répondit Gus en haussant le ton à son tour. Il faut que je te dise en quelle langue pour que tu m'entendes ?
Tu partages mon secret maintenant, que tu le veuilles ou non, et rien ne peut plus changer ça. Gus sentit ses propres idées lui échapper. Tout en parlant, Abel avait planté un doigt dans le vide, à quelques centimètres du front de Gus, comme s'il voulait enfoncer sa façon de voir les choses au plus profond de son cerveau.
Je dirai rien à personne, mais j'ai suffisamment de soucis sans m'en rajouter de nouveaux qui me concernent en rien. C'est ton problème.
Sur ces mots, Gus se leva brusquement en bousculant la table. Les œufs roulèrent du plateau et s'écrasèrent par terre, faisant comme 2 soleils éclatés. Durant tout le temps de l'échange, le fils n'avait pas bougé d'un pouce, et ce fut comme si le choc des œufs sur le plancher le sortait d'un long sommeil. Il se mit à grogner étrangement à la manière d'un animal qui se plaint d'une douleur lancinante. Gus n'était pas vraiment rassuré et sentait qu'il fallait quitter la maison au plus vite. Il contourna la table. Abel lui agrippa un bras en disant qu'il ne pouvait pas les abandonner de cette manière. Gus répondit que si, que c'était exactement ce qu'il allait faire, et jeta vigoureusement son coude en avant pour se dégager de la prise.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir, et nous reprendrons demain la suite du roman de Frank Buys, Grossir le ciel. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez l'écouter en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.